C'est le troisième dimanche, sauf erreur de ma part, qui conclut tout ce groupe chez l'apôtre saint Matthieu des paraboles. Et là, on a la fin de l'enseignement sur les paraboles, avec cette conclusion un peu énigmatique de la manière, de plus exactement, de ce qu'on tire du trésor, qu'est le royaume des cieux. Donc la fin de l'enseignement qui conclut tout ce mouvement des paraboles. Il y a un double thème dans toutes ces paraboles, elles sont très unifiées. Il y a le thème du royaume des cieux et le thème du jugement. Parce que ce n'est pas seulement le royaume des cieux en lui-même et pour lui-même, ici-bas, dès qu'on a la foi, on n'est pas transporté encore. Malgré tout, dans cette autre vie parfaite et délicieuse à laquelle nous aspirons, non, il faut encore passer le cap du jugement. La perle, le champ, le filet, voilà ce que nous avons devant les yeux aujourd'hui. Le trésor que nous sommes invités à contempler, et pas seulement à regarder de loin, mais à entretenir et à utiliser. Ce trésor, c'est la foi, nous dit Jésus. C'est le royaume des cieux, c'est le Christ lui-même qui est présent au milieu de nous. Rappelez-vous, Jésus disait, le royaume des cieux, il ne faut pas courir les mers pour aller le chercher, on ne dira pas il est ici, non, 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 il est là, il est à Cône, il n'est pas à Tros, non, il est à Rieux, etc. Il est dans tel prédicateur, dans tel mouvement d'idées, dans telle culture, pas du tout. Le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et Jésus lui-même est un Dieu vivant qui se tient là, au milieu de nous. Et il se tient, il a matérialisé sa présence d'une double façon, que chaque messe met en valeur. Il est présent dans sa parole dès que nous ouvrons le Nouveau Testament. On le sent présent, on le voit présent, et il est présent dans l'Eucharistie à laquelle nous allons communier. Le royaume de Dieu présent sur la terre, c'est Jésus. Et ce qui nous permet de nous connecter à lui, c'est la foi. C'est une autre opération, mais comme elle nous permet de voir, de goûter le Seigneur présent au milieu de nous, la foi, c'est le grand moyen d'obtenir le royaume. Le filet est interprété ici comme ce qu'on jette à la mer. La mer, c'est le symbole du monde passager où nous nous trouvons. Les uns font le bien, les autres font le mal, d'autres font l'un et l'autre. À un moment donné, à la fin du monde en tout cas, le grand filet divin sera jeté sur les âmes et les ramènera au rivage de l'éternité. C'est une belle image. Et c'est l'image d'un discernement qui est placé devant nos yeux. On fait le tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et notez bien que ce sont les anges qui font le tri, pas les hommes. Les hommes sont l'objet de ce tri, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc voilà, pour bien mettre sous les yeux le contenu de ces paraboles. Et puis, Jésus a cette conclusion, vous comprenez les paraboles, donc par la foi vous êtes devenu scribe, un connaisseur, un spécialiste, mais dans le sens de Jésus, du royaume des cieux. Et alors, vous allez tirer de votre trésor, du neuf et de l'ancien, c'est le pouvoir qui vous est donné. Comme c'est énigmatique tout ça. Ça veut dire d'abord que le trésor, donc, c'est la parole de Dieu, comme les paraboles. Et le sens premier qui nous vient à l'esprit, c'est que la parabole, eh bien, on a beau l'avoir sous les yeux, il faut la foi pour la comprendre. Elle implique un discernement. Également, la thématique du neuf et de l'ancien dans les évangiles, c'est toujours lié à la dialectique du bien d'un côté, le neuf c'est le bien, c'est Jésus, un enseignement tout nouveau, disent les gens ébahis quand Jésus ouvre la bouche, Ou bien c'est l'ancien, c'est le symbole du péché, le vieil Adam. Vous voyez, l'homme pécheur, ça c'est l'ancien, le monde ancien, l'homme ancien. Donc avec ça, on comprend, à la lumière de ce que font les anges eux-mêmes, que ce scribe du royaume de Dieu, eh bien déjà d'une manière générale, va devenir capable de discerner, c'est ça, tirer de son trésor, discerner le bien du mal en cette vie. Comme les anges le font pour l'ensemble des hommes, simplement maintenant, le croyant, parce que ce scribe du royaume de Dieu, c'est le croyant est capable de faire ce tri, et il est invité à le faire, en lui-même, dans ses actes et dans son cœur. Maintenant qu'il a reçu, eh bien, et parce qu'il a considéré que le royaume des cieux était, on pouvait tout vendre pour l'acquérir, uniquement pour ça, c'est ce qui fait qu'il est croyant, eh bien il peut tirer de ce trésor, eh bien ce que Jésus lui demande de faire, devenir un sage selon Dieu, car l'homme devient sage religieusement parlant, mais aussi existentiellement parlant, lorsqu'il est capable de faire comme ce commerçant, lorsqu'il est capable d'acheter la perle ou d'acheter le champ, vendre tout ce qu'on a. Qu'est-ce que c'est vendre tout ce qu'on a? C'est vendre ce qu'on est. C'est pas tellement les choses matérielles, encore qu'il faut consacrer à Dieu même toutes les choses matérielles. Dans une famille, on n'arrête pas de le faire, ça, c'est naturel, à l'amour humain. Mais il faut le faire aussi pour le royaume des cieux. Or, ce que nous avons à consacrer, c'est notre cœur, ce sont nos pensées. Il faut accepter, eh bien, de mettre la vérité comme critère de jugement et être confiant dans le jugement que cette vérité nous permet de faire entre le bien et le mal. Et l'ayant discerné, nous devons tenir compte dans notre vie morale de suivre le bien et se détourner du mal. Voilà ce qu'est tout vendre. On va même vendre peut-être une réussite humaine, on va peut-être vendre un amour humain, mais incompatible, malheureusement, avec la foi, que sais-je, moi. On va peut-être vendre une vie luxueuse contre une vie plus modérée, mais on aura acheté, vraiment, dans le bon sens du terme, le royaume des cieux, car le royaume des cieux ne s'achète pas avec de l'argent, mais avec son cœur. Dieu est vivant. Le Christ est présent en chacun des croyants et il lui parle. Mais le croyant doit être actif. C'est la conclusion de Jésus. Il suffit pas d'acquérir le royaume et hop, on est sauvé une fois pour toutes. Vous voyez, on porte l'estampille, le tatouage qui va nous permettre de passer la porte. Non. Il faut se servir de ce trésor. Et se servir, c'est ce discernement constant entre choisir entre le bien et le mal. Et c'est un acte de discernement, une sagesse. Vraiment, quand on a mis Jésus dans son cœur et dans son intelligence par sa parole, on devient un sage. Il y a toutes formes de sagesse, mais elles ne conduisent pas toutes à la vie, au bonheur, au salut. Loin s'en faut, il n'y en a qu'une. Oh, il y a des sagesses profanes, des philosophies, mais des philosophies, si elles ne mettent pas Dieu comme cause finale, elles n'ont aucune chance d'éclairer ceux qui s'y adonnent. Il y a d'autres sagesses religieuses, mais qui ne mènent pas à la vie. Nous devenons sages, nous devons des scribes, c'est le sens des paroles de Jésus. Vraiment, je voudrais achever sur une perspective ce passage entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre la Bible comme parabole fermée et la Bible comme interprétation ouverte, telle que Jésus les dévoile à ses disciples. Vous voyez, l'Ancien Testament, c'était de belles promesses, mais sans accomplissement encore. Une terre promise, bon, voilà. Mais nous avons une espérance bien plus grande, un ciel promis. Et ça, c'est autre chose. Si on veut résumer un peu, la mystique du judaïsme, donc de l'Ancien Testament, sans la perspective du Nouveau, c'est Dieu se cache et l'homme doit le chercher. Mais Dieu se cache et plus on le cherche, mais c'est pas moins on le trouve, on ne le trouve pas davantage. C'est dans la certitude de sa présence comme acte de foi et dans le fait de le rechercher à travers l'application de ses commandements. Et quelle est la différence avec ce que j'ai exposé précédemment ? C'est que Jésus, il est réellement présent, sensiblement présent. Tandis que le Dieu de l'Ancien Testament, qui est le même Dieu, mais une autre, il s'était manifesté à Moïse, à Abraham, aux prophètes, oui, mais c'est si rare par rapport à tout un peuple, si parcimonieux comme révélation. Et puis comme par hasard, les Juifs se sont aperçus que il n'y avait plus d'hommes inspirés depuis 2000 ans. Et au IVe siècle de notre ère, ils ont même clos la Bible, les livres qu'on pouvait y intégrer, parce qu'ils n'attendaient plus de messagers célestes. Et ils se sont, avec le Moyen-Âge et jusqu'à présent, enfermés dans une espérance que si Dieu est absent, c'est parce qu'il veut qu'on le cherche, c'est pas parce qu'il n'existe pas, mais il faut aller le chercher, et toujours et toujours. C'est un peu triste, bien évidemment, comme perspective. C'est tellement frustrant. Jésus est venu nous libérer de cela, de ce cercle fermé, le ciel fermé. Jésus nous ouvre le ciel. Oui, Dieu se manifeste depuis le Christ, justement, et à tous cette fois-ci, non plus seulement à quelques prophètes. Le Christ se manifeste à nous. Certes, nous devons le chercher, mais quand on le cherche, on le trouve. À la différence, du judaïsme. Pour le judaïsme, Dieu est un trésor perdu. Pour nous, c'est un trésor que nous recelons, qui est dans notre cœur. Alors, usons de ce trésor, devenons des scribes, de véritables sages de son beau royaume.